Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu. Vous allez vous dire peut-être, mais Robert, c'est le mauvais évangile. On est en train d'étudier Jean, pas Matthieu. Ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas trompé. Nous allons laisser de côté pendant une semaine notre étude du livre de Jean pour prendre ce passage de Matthieu 28. Et la prédication sera un peu différente. Ce matin, vous allez voir cela. En général, vous le savez, pour les prédications, c'est deux, trois points. Voici ce qu'il faut faire, voici comment, enfin, voilà, assez structuré. Aujourd'hui, ce sera un peu différent, parce que nous allons regarder la fin de ce chapitre 28, la grande mission que Dieu donne à ses disciples. Cela nous comprend, nous, c'était pas juste les 12 qui étaient avec lui, parce qu'il n'y avait pas que les 12, ou du moins les 11, parce que Judas n'est plus là. Mais ici, Jésus donne cette grande mission, et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur un ensemble de principes en ce qui concerne cette mission, en utilisant le mot « mission ». Donc démission, donc mission avec S, vous allez voir cela, je pense que ça va devenir un peu plus clair tout au long du message. Alors prenons ce passage si bien connu, je vais commencer à partir de verset 16, Matthieu chapitre 28, verset 16. « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole, merci pour ton exemple, merci pour ton assistance, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous demandons ton aide pour comprendre ta parole, nous demandons ton aide pour la mettre en pratique, que tu sois glorifié à travers nous parce que nous sommes obéissants, parce que nous sommes soumis à toi. En ton nom, Amen. Est-ce que vous êtes en train d'accomplir la mission que Dieu vous donne? Oui ou non? Je ne vous demande pas de répondre à haute voix, mais en vous-même. Est-ce que vous êtes en train d'accomplir la mission que Dieu vous donne? Et comme un bon normand, on peut dire peut-être ben oui, peut-être ben que non. Parfois, de temps en temps, mais finalement, ce que Dieu demande de nous, ce que Jésus donne à ceux qui le suivent, ses apôtres, ses disciples, ben, c'est d'accomplir cette mission. Et si nous ne sommes pas en train de le faire, ben, il y a un problème. Si vous allez au travail et que vous croisez les bras et vous vous asseyez, et puis le patron y passe, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ah oh, ben, rien. »« Comment ça, rien ?» « Non mais, tu as un travail à faire. » Et à l'école, pareil. Ben, si on n'étudie pas, ben, on n'avancera pas. Au travail, un peu partout, lorsque nous avons quelque chose à faire, il ne s'agit pas de négliger ses responsabilités. Et pareil dans la vie chrétienne. Mais on peut de façon légitime se demander, mais la mission que Dieu donne, ben, c'est quoi? Parce que si on demande à droite et à gauche, ben, on va avoir des réponses différentes. Ben, la mission, c'est ça. Et c'est ça, et c'est ça. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 19, parce que Jésus, devant ses disciples, va donner un ordre, un seul. Et cet ordre n'est pas, alors, comprenez bien, cet ordre n'est pas d'aller. L'ordre ici, même s'il est mis à l'impératif en français, c'est un peu dommage, Jésus ne dit pas ici « allez ». Il dit « en allant ». Alors bien sûr, il faut aller. Les gens ils ne vont pas forcément venir vers nous. Parfois, ça va arriver, gloire à Dieu. D'ailleurs, on a fait remarquer très justement tous les réfugiés qui viennent en France, bah, c'est le champ de mission qui arrive chez nous. Et nous devrions profiter de cela. Mais ici, Jésus dit, en allant partout, donc ça implique que certains vont aller, gloire à Dieu. Mais même si nous n'allons pas forcément au loin, Jésus dit, en allant partout où vous êtes, l'ordre c'est ceci, faites des disciples. Faites des disciples. Mais finalement, qu'est-ce que cela implique? Et c'est justement ce que nous allons voir à travers ce mot mission. Alors, en prenant chacune des lettres de ce mot, je vais vous donner un mot qui lui correspond. Alors, le mot mission commence avec M, n'est-ce pas? Alors, le mot, la lettre M, on va lui associer le mot maintenant. Alors, gardez un droit dans Matthieu chapitre 28, on va voir un ensemble de versets ce matin. La deuxième épître aux Corinthiens chapitre 6. Cherchez ce verset avec moi. La deuxième épître aux Corinthiens chapitre 6. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 6. Le verset 1 déjà. Paul qui écrit à cette église dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Donc il dit « Nous sommes au travail en train d'accomplir ce que Dieu veut et on prie pour que les gens ne reçoivent pas cela en vain. » Alors verset 2, regardez. « Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Paul, connaissant très bien l'Ancien Testament, va citer un passage donc, de l'Ancien Testament. Et il termine le verset en disant, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Lorsque nous accomplissons la mission que Dieu nous donne, c'est-à-dire faire des disciples, nous devons insister sur le fait que c'est maintenant. C'est maintenant. Les gens devant nous n'ont pas l'assurance des heures qui suivent, n'ont pas l'assurance de demain. Et que c'est maintenant que ces personnes doivent accepter Christ. Et cela est important parce que dans notre société, c'est chacun fait ce qu'il veut. C'est, bah, je fais ça si ça me plaît, mais bon... Si ce n'est pas trop important, bon, je remets. Et, voilà, je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Nous entendons toutes sortes de choses. Et si nous présentons le salut en Jésus-Christ à quelqu'un et on dit à cette personne, bah, c'est maintenant, ne tardez pas. Il faut le faire. Parce que Dieu sauve maintenant. Bon, il peut sauver demain si on fait appel à lui, mais... On n'est pas assuré de demain. Et Paul, lui, bien sûr, il avait très bien compris. Partout où il allait, ben, il disait, c'est aujourd'hui qu'il faut accepter Christ. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision. Et aujourd'hui, dans notre annonce de l'Évangile, lorsque nous confrontons des personnes avec cette vérité, qu'ils sont pécheurs, qu'ils doivent accepter Christ comme leur sauveur, il faut également insister sur le fait que c'est maintenant. Maintenant, on peut dire maintenant ou jamais. Parce qu'on ne sait pas quand la prochaine fois qu'on y pensera, qu'on aura l'occasion de le faire, c'est maintenant. Et puis finalement, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, si nous le sommes, c'est maintenant que nous devons annoncer ce message. Peut-être demain, on ne verra pas cette personne. Peut-être plus tard, cette personne ne sera pas disponible. Et de dire, comme malheureusement, moi je l'ai fait à plusieurs reprises, peut-être vous l'avez fait également, « Ah, je ne témoigne pas maintenant, je ne dis pas à la personne maintenant, je le ferai la prochaine fois. » Et finalement, cette fois, elle n'arrive pas. Cette occasion, on l'a ratée, et puis voilà, on ne reverra plus la personne. Ou, suite à différentes circonstances, on a plus cette occasion, la personne n'est plus réceptive, et on n'a pas saisi l'occasion que Dieu a présentée devant nous. Alors, comme il est tout à fait vrai que les personnes aujourd'hui doivent accepter Christ, il est tout à fait vrai que c'est aujourd'hui que nous devons annoncer ce message du salut. Parce que peut-être plus tard, ce sera trop tard. C'est maintenant. Donc la mission, c'est maintenant, pas plus tard. Mais le mot mission, la lettre suivante, c'est le I. La lettre I. Et pour cela, ben, nous allons dans la première épître aux Thessaloniciens. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Et le verset 2. Car vous savez bien vous-même, c'est Paul qui écrit ici à cette église de Thessalonique, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Comme un voleur qui n'annonce pas qu'il va passer, ce serait super, n'est-ce pas? Il envoie un petit courrier, bah, moi je passe vous cambrioler cette nuit ou dans deux jours, bah, moi je serai là telle ou telle heure. Ce serait bien, n'est-ce pas? Mais c'est ridicule, il ne le ferait jamais, un voleur. Non. Sauf si il y a vraiment un problème, quoi. Mais un voleur ne s'annonce pas. Et finalement, le retour de Jésus qui mettra terme à notre travail pour Dieu, mais également qui mettra terme à cette époque de la grâce, ben on ne sait pas quand cela va arriver. Dieu nous donne quelques signes que peut-être ce n'est pas très, très loin. Ce monde va tellement mal, on se dit, ce n'est pas possible que Dieu tarde à revenir. Mais on ne sait pas exactement quand. On ne peut pas dire, comme certains disent, tel ou tel mois, telle ou telle date. Moi, je sais que Jésus reviendra. Si jamais vous entendez ça, dites-vous, c'est pas vrai. Si jamais quelqu'un vous dit ou que vous lisez, Jésus reviendra telle ou telle date, ben, c'est faux. Nous ne savons pas. Et à cause de cela, c'est cette idée de imminent. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Peut-être vous avez une voiture, vous avez un appareil, et il y a une pièce qui risque de lâcher. Et vous vous en servez malgré tout, mais vous savez que du jour au lendemain, ça risque de casser. Là, vous serez bien embêté. Vous ne savez pas quand. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être des jours, des semaines, voire des mois plus tard. Mais vous savez que ça risque d'arriver. Et c'est ça l'idée de imminent. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et le retour de Jésus qui mettra terme à notre témoignage, puisque nous serons enlevés, selon ce que dit la Bible. Alors nous ne serons plus sur la terre. Sur la terre, nous ne pourrons plus accomplir cette mission-là. On aura d'autres missions, par la grâce de Dieu, à accomplir auprès de Dieu, mais on ne pourra plus accomplir cette mission que Dieu donne ici, que Jésus donne ici à ses disciples. Et parce que c'est imminent, parce que c'est maintenant, bah, ne tardons pas. Ne remettons pas à plus tard, même si remettre, c'est facile. Ça ne demande presque aucun effort. Vous savez, remettre quelque chose à plus tard, c'est une des choses les plus faciles au monde. Saisir l'occasion aujourd'hui, alors là, ça devient complexe. Et voilà pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et Jésus, dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'est donné. Il ne suffit pas de nous appuyer sur notre propre force, on n'en a pas assez. Mais la force que Jésus donne, oui, nous pouvons. Et peut-être ça fait peur de parler à quelqu'un. Peut-être on est timide, on hésite, on dit, mais qu'est-ce que la personne va penser? Comment est-ce que ce sera reçu? On se pose toutes sortes de questions, on essaie de trouver toutes sortes d'excuses, moi compris. Ne croyez pas que c'est plus facile pour moi que parce que je suis pasteur. Non. Mais de savoir que c'est maintenant que nous devons travailler, de savoir qu'un jour, nous ne pourrons plus faire ce travail-là. Comme j'ai dit, on aura d'autres travails, mais on ne pourra plus accomplir cette mission-là, eh bien, cela doit nous pousser à parler aux gens, à les interpeller. Alors, c'est maintenant. Le retour de Christ est imminent. Mais également, le mot mission, M, I, S. Alors, cette S, on va lui associer le mot sauver. Et ceci est très important, parce que notre mission n'est pas d'annoncer la meilleure vie maintenant. Cet évangile de la prospérité, vous savez peut-être, vous avez entendu peut-être parler de cela. Venez à Jésus, vous n'aurez plus de soucis. Venez à Jésus et tous vos problèmes seront réglés. Qu'est-ce que j'aimerais bien que ce soit le cas. Ce serait formidable. Et ça, c'est un message qu'on voudrait annoncer. Mais finalement, comme j'ai expliqué la semaine dernière, comme vous le savez sûrement, dans pas mal de cas, on accepte Christ comme son sauveur et on a plus de soucis. On a plus de problèmes aux yeux de certains, n'est-ce pas? On se dit, mais c'est mauvais échange, là. Il aurait mieux fallu que je ne sois pas chrétien. Alors, si jamais vous avez cette réflexion, bannissez-la et demandez à Dieu de l'enlever. Mais nous appelons les gens aujourd'hui non simplement à une amélioration de vie, bien qu'avec Jésus, la vie, elle est améliorée parce que nous retrouvons cette relation avec Dieu. Mais nous appelons les gens aujourd'hui à être sauvés. Et pour cela, allez avec moi dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 3. L'évangile de Jean, chapitre 3, le dernier verset, verset 36. Jean va dire ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Donc, c'est une certitude, on croit, Dieu nous donne la vie éternelle. Mais, regardez ce que Jean dit, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Et là, pas la vie physique, mais la vie éternelle, la vie spirituelle. Mais la colère de Dieu demeure, et je l'ai déjà expliqué, vous le savez peut-être, ici c'est l'idée, c'est déjà là. Fait son habitation déjà sur lui. Les gens aujourd'hui doivent comprendre qu'ils doivent être sauvés. Pas simplement un peu améliorés, mais totalement transformés. Que devant Dieu, toutes leurs bonnes œuvres, toute leur vie, c'est comme des vêtements souillés, comme dit l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous avons la responsabilité, lorsque nous annonçons l'Évangile, de dire aux gens, vous êtes pécheurs. Ça ne plaît pas, bien sûr, mais c'est la réalité de la chose. Ce n'est pas nous qui les condamnons, c'est Dieu. Ils sont pécheurs. Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Lorsque nous parlons du salut, on parle d'être sauvé de quelque chose. Et Jean nous explique que c'est la condamnation éternelle. Alors lorsque nous parlons avec les gens, bien sûr, on peut mettre en avant notre relation avec Dieu, comment Dieu nous apporte la paix, la joie, comment Dieu nous aide à traverser des épreuves. Et pas de souci à mettre ces choses en avant et dire « voici ce que Dieu fait pour moi ». Cela est normal. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu fait des choses extraordinaires pour nous. Mais gardons-nous de donner l'impression que de venir à Dieu, on y vient seulement pour ce que nous pouvons recevoir de sa part. Non, on vient à Dieu parce qu'on est condamné à mort et on ne peut pas se sauver soi-même. On a besoin de Jésus-Christ. Alors, c'est maintenant que les gens doivent être sauvés. C'est imminent, cette annonce, parce qu'on ne sait pas quand on aura une autre occasion de le faire. Nous appelons les gens au salut et pas simplement à une meilleure vie, une petite amélioration, même une grande amélioration. Non, nous les appelons à être sauvés, transformation totale. Et puis, le mot mission comporte un deuxième S et on va lui associer le mot secourir. Alors, allez avec moi dans le petit livre de Tite. Alors, vous trouvez les deux épîtres à Timothée et Tite, bien juste après. un tout petit livre. Paul écrit à son ami pasteur Tite, et il va lui dire ceci au chapitre 2, au verset 14. Il est question ici de Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Donc voilà la réalité de tout enfant de Dieu. Jésus nous a rachetés de notre vaine manière de vivre, comme Paul va le dire à Timothée, comme Pierre va le dire, pardon. Et purifiés, nous sommes purifiés. Ça, c'est la réalité si nous sommes sauvés. Mais regardez la suite du verset. Purifiés par lui et zélés pour de bonnes œuvres. De faire comprendre aux gens, lorsque nous leur annonçons le salut, que le salut n'est pas un but en soi. Malheureusement, dans beaucoup de milieux chrétiens, on a donné cette impression que venez à Dieu, acceptez Christ comme votre sauveur pour éviter la condamnation éternelle, et après c'est tout. Et finalement, Paul ici, Jésus lui-même, il avait expliqué en Matthieu 28, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le salut n'est qu'un but en soi. Et les chrétiens doivent être à l'œuvre. Alors, ces bonnes œuvres pour lesquelles nous devons être zélés, c'est quoi? Allez avec moi au chapitre 3, verset 14. Donc, chapitre 2, verset 14, on peut lui associer chapitre 3, verset 14. Il faut que les nôtres, donc les gens de l'église sur laquelle Tite avait la responsabilité, il faut que les nôtres aussi apprennent à, regardez, pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire le fruit. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions, Paul va le dire aux Éphésiens, ces bonnes œuvres pour lesquelles nous devons être zélés, en partie, c'est pas la totalité, mais en partie, c'est de s'aider les uns les autres. C'est de pouvoir manifester ce fruit par l'aide que nous apportons à nos frères et sœurs. Et de faire comprendre aux gens auxquels nous annonçons le salut que secourir, nous secourir les uns les autres, fait partie de la vie chrétienne. Nous disons souvent que nous sommes la famille de Dieu. Il y a ce chant, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Et si nous sommes une famille, il est normal de nous aider les uns les autres. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient seuls, isolés, les uns dans un coin, les autres dans un autre. Non, cette idée que lorsque on vient à Dieu, il y a toute cette famille que nous pouvons aider et de laquelle nous pouvons également recevoir de l'aide. Croyez-moi, quand nous sommes dans le besoin, nous sommes bien contents qu'il y ait des personnes là pour aider. Et lorsque d'autres sont dans le besoin, quelle joie, quel privilège de pouvoir leur apporter de l'aide selon les disponibilités que Dieu nous donne. Nous disons souvent que nous sommes sauvés pour servir. Et cela est vrai. Alors, veille que ce soit le cas. Est-ce que je viens à Dieu tout simplement pour avoir mon billet pour le ciel et agir tout comme je veux ici sur la terre? Non. Veille que ce ne soit pas le cas. Je suis sauvé pour secourir. Vous savez, cette vie est dure. C'est une phrase que je reprends pas mal depuis un certain temps. Cette vie, elle est dure dans presque tous ses aspects. Et si les chrétiens ne sont pas là pour s'aider les uns les autres, quel témoignage avons-nous? Alors, le mot mission, c'est maintenant, c'est imminent, c'est sauver, c'est secourir, mais nous allons regarder la deuxième épître de Pierre pour voir que le I dans mission, alors M-I-S-S-I, ça s'applique aux individus. C'est individuel. La deuxième épître de Pierre, chapitre 3. deuxième épître de Pierre, chapitre 3, et ici le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que aucun périsse. Et là, c'est vraiment individuel. C'est pas juste le groupe dans son ensemble, mais individuellement. Il ne veut pas que aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pas juste tous comme un groupe, ouais, que tout le monde soit sauvé. Non, Dieu, par Jésus-Christ, veut que chacun individuellement soit sauvé. Et voilà pourquoi fréquenter une église n'est pas assez. Avoir des amis chrétiens n'est pas assez. Nous le savons, mais les gens à l'extérieur doivent le savoir. Parce que les gens inconvertis nous fréquentent, ne fait pas d'eux des chrétiens. Ne fait pas d'eux des gens sauvés. Le salut est individuel. Crois dans ton cœur. C'est pas tout le monde croit et puis c'est bon. Un salut collectif, si on peut le dire. Non, 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 nous le savons. Mais parce que, malheureusement, par moment, cette idée est donnée et cette idée est répandue dans d'autres milieux, que voilà, parce qu'on est proche des chrétiens, on est proche de l'Église, voilà, on se glisse un peu et on s'identifie, mais il n'y a pas de réelle conversion personnelle. Et nous, nous devons nous garder de donner cette impression, ou même de le dire, qu'il y a un salut collectif. Non, 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 non. Le salut est individuel. On croit dans son cœur. On dit avec sa bouche. Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire pour nous, même si on souhaiterait tellement le faire pour certaines personnes, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas. C'est individuel. Et nous devons traiter avec les gens comme des individus. Souvent, on parle des inconvertis. Tout ce grand groupe, des milliards sur la terre. Mais est-ce que nous pensons à ces personnes comme vraiment des individus? Et des individus que Dieu a créés et que Dieu aime. Vous pensez à quelqu'un dans votre vie avec laquelle vous n'arrivez pas, pour X raisons, à avoir une bonne relation ou autre. Et vous pouvez vous dire, cette personne a été créée par Dieu. Dieu aime cette personne et Dieu veut que cette personne soit sauvée. Alors si Dieu veut cela, moi également. Je dois voir des personnes comme des individus, des êtres créés par Dieu qui individuellement doivent accepter le salut en Jésus-Christ. Pierre, il a compris cela. Paul, lui, il a compris cela en disant bah, nous vous avons annoncé individuellement, nous vous encourageons, nous vous stimulons les uns les autres individuellement. Alors notre annonce du salut doit être individuelle. Et parce que c'est individuel, bah, les arguments qu'on va utiliser avec une personne ne marcheront peut-être pas avec l'autre. Même Paul, il a fait cela quand il était avec des juifs, souvent il prenait la loi, Moïse et tout ça. Quand il était avec des non-juifs, ben, il utilisait la logique. Il prenait d'autres repères parce qu'il savait que les gens, ben, ce sont des individus. On n'a pas tous le même arrière-plan. On n'a pas tous les mêmes expériences, la même histoire. Et du coup, pour nous de voir des personnes comme des individus et non pas simplement des chiffres. Ah, cette semaine, 5 personnes auxquelles j'ai témoigné. Cette semaine, 2, 3. Cette semaine, 15, 20. Non, ben, voici telle ou telle personne. Son nom, comment il s'appelle, les circonstances. Ce sont des individus, non pas des chiffres quelque part sur un tableau, pas juste un collectif, non, des individus qui doivent accepter individuellement le salut. Alors, M, I, S, S, I, et nous arrivons à la lettre O. Et là, vous n'allez peut-être pas trop apprécier, mais je vais employer le mot obligation. Ah, ah, on n'aime pas ça. Des recommandations, des avis, des conseils, mais voilà, obligation. Et pourtant, allez avec moi dans ce passage bien connu de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. En plus du verset dans Matthieu chapitre 28, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre de la part de Dieu, mais de la part de Jésus, pardon. Mais Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, donc partout où nous sommes, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que cette phrase est ambiguë, à votre avis? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Bon, le français n'est pas ma langue maternelle, parfois j'ai quelques difficultés avec tes phrases, mais je regarde la formulation ici, et je me dis, moi je dois prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi? Parce que c'est facile? Parce que les gens sont réceptifs? Parce que des conditions sont parfaites? Parce que j'ai toujours envie? Non! Parce que parfois, ben, on n'a pas envie. Soyons honnêtes, parfois on n'a pas envie. Même moi, je vous le dis. Parfois, je n'ai pas envie. Okay? Ne soyez pas choqués. Parfois, je n'ai pas envie. Parfois, les conditions ne sont pas parfaites. Parfois, les gens sont durs, ne veulent rien entendre. Mais selon ce verset, qu'est-ce que moi je dois faire? Prêcher la bonne nouvelle. Prêcher l'évangile. La phrase ici, le mot, c'est le mot grec pour évangile, donc bonne nouvelle. Jésus dit, c'est une obligation. Et si je ne le fais pas, ça veut dire que je suis dans la désobéissance. Et cela est grave. Cette mission, c'est une obligation parce que les gens meurent aujourd'hui et vont passer l'éternité loin de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas entendu. Et Dieu se sert de nous. Mais si nous n'annonçons pas, alors le mot ici, prêcher, c'est simplement l'annonce. On ne parle pas simplement de ce qui se fait derrière le pupitre le dimanche matin. C'est annoncer. Dire à haute voix, prêcher, annoncer, proclamer la bonne nouvelle. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? La télé? Sûrement pas. La radio? Non, parce que les gens écoutent de moins en moins, il paraît. Le gouvernement, les autres, ceux qui sont prédisposés, ceux qui ont des qualités, ceux qui sont bien doués. Non, pas forcément. Chacun, chaque enfant de Dieu, sans exception, vous ne faites pas l'exception à la règle. Chaque enfant de Dieu est appelé, obligé d'annoncer la bonne nouvelle. Et de réfléchir, où est-ce que je peux le faire de plus en plus? À qui est-ce que je peux annoncer cette bonne nouvelle aujourd'hui, cette semaine? Parce que si je ne suis pas en train d'activement de chercher à annoncer la bonne nouvelle, je n'accomplis pas la mission que Jésus donne. Je fais quelque chose, peut-être, mais je n'accomplis pas la mission que Dieu donne. C'est une obligation, ce qui fait que si on ne le fait pas, on est dans la désobéissance. Et cela est tellement grave. Alors, nous arrivons à la lettre N. M-I-S-S-I-O-N. Et là, nous allons parler de nouvelle naissance. Alors, de nouveau, l'évangile de Jean, chapitre 3. L'évangile de Jean, chapitre 3. Dans ce chapitre, nous avons la grande discussion entre Nicodème et Jésus. Nous aurons par la suite l'occasion d'examiner en détail ce passage. Mais il suffit pour ce matin de voir à partir de verset 3. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, on peut le traduire, je t'affirme, il est totalement vrai. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Cette nouvelle naissance, cette transformation totale est ce que nous annonçons. Ceci rejoint un peu cette amélioration de vie. C'est la nouvelle naissance, une métamorphose. On passe d'une chose à quelque chose de complètement différent. Alors, la naissance, il paraît, est quand même quelque chose de radical. Hein? D'après ce qu'on me dit. Bon. Mais on voit qu'une femme, elle est enceinte, et puis elle ne l'est plus. Un enfant est dans le ventre de sa mère, et puis il ne l'est plus. Et croyez-moi, c'est un changement radical pour l'enfant. Quand il sort, il se dit, mais j'étais bien, j'étais au chaud. Pourquoi est-ce que, monde cruel, pourquoi est-ce que je viens? Alors, c'est quelque chose de radical. On passe d'un état à un état complètement autre. Paul, lui, il va parler de passer du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Des ténèbres, de la mort à la vie. Et cette nouvelle naissance est ce que nous annonçons. Si nous annonçons le salut en Jésus-Christ sans montrer que cela implique un changement, nous n'annonçons pas finalement le salut. Je vous ai parlé récemment de ce slogan de McDo que j'avais vu, qui m'a un peu choqué, « Venez comme vous êtes ». Hein, vous l'avez peut-être vu, ça remonte à quelque temps, mais « Venez comme vous êtes ». Okay. La Bible, quelque part, dit la même chose. Venez à Jésus, n'essayez pas de vous améliorer avant de venir à Jésus pour le salut. Par contre, la grande différence, c'est ne restez pas tel que vous êtes. Non, laissez Jésus vous transformer. Et si nous n'annonçons pas la nouvelle naissance, finalement, nous n'annonçons pas le vrai évangile. Alors, la nouvelle naissance, de dire aux gens, si vous acceptez Christ, ça implique des changements. Vous n'allez pas pouvoir faire exactement les mêmes choses. Vous n'allez pas pouvoir aller dans les mêmes endroits. Vous allez devoir laisser de côté certains désirs, certaines choses que vous faisiez. Ne donnons pas l'idée aux gens que quand ils viennent à Jésus, ils peuvent tranquillement continuer comme si de rien n'était après. Non, non, non. Changement radical, la nouvelle naissance. Et finalement, dans Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 1, verset 8, le S, parce qu'on parle d'émission, il y a la grande mission, mais d'émission parce que chacun doit l'accomplir, donc il y a plusieurs missions. Actes chapitre 1, le S. Le dernier, mais loin d'être le moins important. On aurait pu le mettre en tête de liste, mais après, ça a chamboulé toutes les lettres du mot. C'est le Saint-Esprit. Actes, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Si nous essayons d'accomplir cette mission par nos propres forces, sans demander l'aide de Dieu, sans demander à Dieu de nous soutenir, de nous donner les paroles qu'il faut, d'enlever la peur, d'enlever la timidité, d'enlever la crainte qui pourrait être là, nous allons échouer. Le Saint-Esprit est donné en majeure partie pour permettre aux enfants de Dieu de pouvoir annoncer le salut en Jésus-Christ. Certes, le Saint-Esprit nous aide dans d'autres domaines, mais Jésus explique dans ce verset qu'il est là surtout pour nous aider avec le témoignage. Alors, si vous avez des difficultés avec le témoignage, si nous avons, parce que moi-même, par moments, j'en ai des difficultés, si nous avons des difficultés, il suffit de s'adresser à Dieu par le Saint-Esprit pour demander son aide. Et vous savez quoi? C'est extraordinaire. Dieu la donnera, cette aide. Dieu la donnera. Dieu ne dira jamais « Ah, laisse-moi réfléchir. »« Ah non, pas cette fois-ci, débrouille-toi cette fois-ci, moi je suis occupé avec telle ou telle autre chose. » Non. Si nous demandons l'aide de Dieu pour le témoignage, il la donnera. Et nous avons besoin de cette aide, alors demandons-lui. Demandons-lui, parce que c'est lui qui fortifie. Je vous lis un verset dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Jésus qui parle. C'est l'esprit qui vivifie. Alors, le Saint-Esprit, nous en avons besoin pour notre témoignage. Mais finalement, nous allons terminer avec un verset dans Éphésiens chapitre 5. Le Saint-Esprit n'est pas simplement pour le témoignage. Il nous aide pour le témoignage, il faut son aide pour le témoignage. Sans lui, on va échouer. Mais le Saint-Esprit doit faire partie intégrante de chaque aspect de notre vie. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Arrêtez de vous enivrer de vin. Je sais que ce n'est probablement pas marqué comme ça dans votre Bible, mais c'est la façon dont Paul s'exprime. Finalement, il dit « arrêtez quelque chose que vous faites déjà ». Alors, apparemment, les Éphésiens, même en tant que chrétiens, s'enivraient. Ce n'est pas bien. La Bible condamne l'ivresse. Et Paul leur dit « mais qu'est-ce qui vous prend ? Arrêtez ça ! Arrêtez de vous enivrer ! Soyez, alors, continuez d'être, continuellement, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, au lieu de s'enivrer, au lieu d'être contrôlé par toute autre chose, soyons contrôlés par le Saint-Esprit. Oui, dans le témoignage, mais aussi au travail. Des collègues difficiles, comment faire face à eux ? Ben, le Saint-Esprit. La famille, pas toujours facile, comment faire face à elle ? Comment la supporter ? Le Saint-Esprit. Les frères et sœurs en Christ qui ne font pas toujours ce qu'il faut, le Saint-Esprit. L'école, réussir, le Saint-Esprit. Si nous écartons le Saint-Esprit de ce que nous faisons, peu importe qu'est-ce que c'est, nous allons vers l'échec. Mais si nous intégrons le Saint-Esprit, il nous donnera la sagesse de savoir quoi faire, de savoir quand agir, de savoir quand ouvrir la bouche, de savoir quoi dire à telle ou telle personne. Il nous donnera la force pour surmonter toute peur, toute hésitation, tout ce qui pourrait nous empêcher d'accomplir cette mission que Dieu a pour nous. C'est le Saint-Esprit qui est là. Et Jésus dit, vous l'avez. Paul, lui, il va dire, nous avons tous, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ont reçu également le Saint-Esprit. Il est là, pourquoi ne pas s'en servir ? Pourquoi ne pas faire appel à lui ? Alors cette mission que Dieu nous donne n'est pas de faire comme nous voulons, n'est pas de gagner le plus d'argent, n'est pas simplement d'avoir une bonne vie, bien que Dieu veut qu'on ait une bonne vie. Non, notre mission, c'est d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Et c'est maintenant, c'est imminent, parce que les gens doivent être sauvés. Quand ils sont sauvés, ils sont censés secourir, aider les uns les autres. C'est individuellement que ça doit se faire. C'est une obligation. Ça passe par la nouvelle naissance et tout cela grâce au Saint-Esprit. Et je reviens à la question de départ. Est-ce que vous êtes en train d'accomplir la mission que Dieu vous donne ? Selon ces principes, est-ce que c'est ce que vous faites ? Si oui, bah gloire à Dieu. Sinon, ce qui est formidable, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui de le faire. C'est ouvert à tous et c'est ce que Dieu veut pour tous. Au lieu d'être occupé à droite et à gauche avec nos affaires terrestres, on va dire, et négliger la mission de Dieu, mettons la mission de Dieu en premier, tout en bien sûr nous occupant de nos responsabilités. Mais assurons-nous que nous accomplissons la mission que Dieu a pour nous. Et ce qui, encore, est extraordinaire, c'est que quand nous le mettons à la première place, il va agir. Ce n'est pas de la magie, mais presque. C'est la puissance de Dieu qui agit. Alors, nous avons sûrement failli dans notre mission à des moments. Il faut demander pardon à Dieu pour cela. pour demander son aide pour l'avenir. Et c'est ce que nous allons faire dans la prière devant Dieu, demander à Dieu de nous aider pour accomplir cette mission, de ne pas la négliger, de ne pas faillir. Oui, Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse. Nous te demandons pardon de ne pas accomplir toujours cette mission que tu nous donnes. Nous faisons appel à toi pour que tu nous fortifies, pour garder cette mission dans notre esprit, de pouvoir le faire chaque jour, que tu nous remplisses de ton assurance, de ton esprit, qu'il puisse nous diriger en toutes choses, que tu nous remplisses de zèle pour parler aux gens qui sont autour de nous, que tu nous donnes de voir les gens inconvertis autour de nous comme des personnes qui vont passer l'éternité loin de toi s'ils ne t'acceptent pas. Que tu puisses fortifier chacun pour les situations de cette semaine devant nous. Tu les connais et tu as déjà prévu ton aide, ta puissance pour chaque situation. Que nous puissions nous en remettre à toi pour chacune de ces situations, qu'il soit évident qu'à travers cette semaine, c'est toi qui auras agi. Et ainsi, Seigneur, que toute la gloire, toute la louange puisse te revenir et que nous puissions en témoigner autour de nous afin que toi, tu sois en toutes choses glorifié et exalté. C'est en ton nom que nous prions. Amen.